France Musique.
Oh ! Indice de la bamboche. Ah ben c'est très intéressant comme image parce que c'est vraiment une cristallisation de l'idée de folk. C'est-à-dire qu'on a le groupe avec les cheveux à la longueur réglementaire, la barbe particulièrement bien représentative, les pantalons parfaitement adaptés à l'époque, c'est-à-dire taille 38 avec bas évasé, donc dit pas de def. Et nous sommes donc dans un univers de convivialité installé à la terrasse d'un village auvergnat. On reconnaît au fond à droite un clocher à Empeigne, donc ça serait plutôt entre Dordogne et Auvergne. Et puis donc on a l'aimable bistrotière qui sort servir à boire. Voilà, c'est une expression assez précise de l'univers dans lequel on s'inscrivait plus ou moins consciemment.
France Musique. Planète Écora. Aliette Delalleux.
J'allais tirer de ce côté-là, pensant que j'y trouverais la sente qui coupait le bois en ligne droite, lorsque j'entendis le son d'une musique qui était approchant celui d'une cornemuse, mais qui menait si grand bruit qu'on eût dit d'un tonnerre. Moquez-vous si vous voulez. Cette musique, dans un lieu si peu fréquenté, me parut endiablée. Elle chantait trop fort pour être naturelle. Et surtout, elle chantait un air si triste et si singulier que ça ne ressemblait à aucun air connu sur la terre chrétienne. Comme le vacarme s'en allait se perdant, je consentis à regarder, d'autant que Brulette était affolée de savoir ce que c'était ce paquet. Et Joseph, le défaisant, nous fit voir une musette si grande, si grosse, si belle, que c'était de vrai une chose merveilleuse et telle que je n'en avais jamais vue. George Sand, Les Maîtres Sonneurs, 1853. Aujourd'hui, nous rendons hommage à une immense personnalité du monde des musiques traditionnelles en France. Il était musicien, pédagogue, collecteur, compositeur. Jean Blanchard s'est éteint le 28 octobre 2025 à Lyon. Jean Blanchard, c'était un souffle, celui d'une cornemuse, mais aussi celui d'un mouvement dans les années 70 qui a redonné des couleurs au chant populaire. Jean Blanchard a participé à la fondation du Folk Club de la Chanterelle à Lyon, à la création du groupe La Bamboche. Il a également créé le Centre de musique traditionnelle Rhône-Alpes en 91. C'était un visage connu des festivals, des lieux d'apprentissage et d'enseignement. Un visage que l'on retrouve sur de nombreux albums mythiques de cornemuse, de musique du Berry dont il était originaire et de projets dont il était souvent à l'origine. Un visage aussi doux que sa voix, souligné par une longue barbe et de petites lunettes rondes. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Jean Blanchard en compagnie d'Evelyne Girardon et nous aurons également les témoignages de Maxou Heinzen et d'Éric Montbel. Bonjour et bienvenue dans Planète Okora.
Le rossignol du verbe cage m'a promis qu'il le fera. Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
Le rossignol du verbe cage m'a promis qu'il le fera.
Le rossignol du verbe cage m'a promis qu'il le fera.
Le rossignol y prend son vol, au château d'amour s'en va. Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
Tenez la belle, voilà la rose. Mais le rosier n'y est pas.
Le rossignol y prend son vol, au château d'amour s'en va.
Le rossignol y prend son vol, au château d'amour s'en va.
Il trouva la porte fermée, par la fenêtre il entra. Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
Il trouva la porte fermée, par la fenêtre il entra.
Il trouva la porte fermée, par la fenêtre il entra.
Il trouva trois dames à table, poliment les salua. Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
Il trouva trois dames à table, poliment les salua.
Il trouva trois dames à table, poliment les salua.
Bonjour l'une et bonjour l'autre, bonjour mamselle que voilà. Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
Tenez la belle, voilà la rose. La rose, mais le rosier n'y est pas.
Bonjour l'une et bonjour l'autre, bonjour mamselle que voilà.
Bonjour l'une et bonjour l'autre, bonjour mamselle que voilà.
Votre maman m'envoie vous dire que vous ne l'oubliez pas. Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
Votre maman m'envoie vous dire que vous ne l'oubliez pas.
Votre maman m'envoie vous dire que vous ne l'oubliez pas.
J'en ai bien oublié d'autres, j'oublierai bien celui-là. Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
J'en ai bien oublié d'autres, j'oublierai bien celui-là.
J'en ai bien oublié d'autres, j'oublierai bien celui-là.
S'il était venu lui-même, il aurait gagné ses pas. Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
S'il était venu lui-même, il aurait gagné ses pas.
S'il était venu lui-même, il aurait gagné ses pas.
Nous aurions soupé ensemble, mais nous n'y souperons pas. Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
Nous aurions soupé ensemble, mais nous n'y souperons pas.
Nous aurions soupé ensemble, mais nous n'y souperons pas.
Nous aurions fait bien des choses que je ne vous dirai pas. Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
Tenez la belle, voilà la rose, mais le rosier n'y est pas.
La rose et le rosier, interprété par Jean Blanchard. Il est accompagné dans cette version de Marc Augeret et Marc Robin. Bonjour Evelyne Girardon.
Bonjour Aliette.
Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un grand honneur de vous recevoir dans cette émission.
Merci.
Evelyne Girardon, vous allez nous parler de votre compagnonnage avec Jean Blanchard tout au long de cette émission, puisque vous avez fait un sacré bout de chemin ensemble. On peut citer La Bamboche, on peut citer La Compagnie du Beau Temps. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la vie de Jean Blanchard ?
Il faudrait avoir beaucoup de temps pour
résumer. On a une heure, mais bon.
Non, c'est très difficile de résumer d'une part tout le vécu, tout le parcours musical, tout ce qu'il a initié pour nous deux. Nous deux dans le cadre de plein de spectacles, dans la création de la Compagnie du Beau Temps. Et bien avant ça, dans La Chanterelle, pour ce qui concerne la création de La Chanterelle, et puis tout le reste, quand on commence à lister les choses, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, c'est un parcours de plus de 50 années, donc ça fait du temps. Et puis, ce qui est bien aussi dans cette histoire de temps, c'est la continuité de la musique avec Jean, c'est-à-dire qu'on a parcouru ensemble des tas de procédures, de recherches, d'expressions. Et il a été formidable pour ça, puisque rien n'était interdit, tout était possible.
J'ai l'impression qu'il a vraiment embrassé toutes les évolutions des musiques traditionnelles en commençant par toutes ces années 70.
Moi, quand je suis rentrée dans La Bamboche, après tous ces garçons qui avaient eu un tel succès, c'était pour faire une formation dite à l'époque, ce qui était très drôle, dite électrique, c'est-à-dire avec basse, guitare, voilà, batterie après. Et donc la question de l'harmonisation de ces musiques et de la manière de les confier à un nouveau public, à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui tenait beaucoup Jean et qui nous tenait beaucoup à tous. Et puis finalement, il a eu des tas d'évolutions, Jean, qui ont été aussi les miennes quelque part, parce que les recherches ont été communes. Donc au bout du bout, après avoir tenté des tas de choses, après avoir aussi fait des spectacles mis en scène avec des comédiens, après avoir tenté de la polyphonie de cornemuse, car la grande bande des cornemuses, c'est aussi un type de polyphonie particulière, alors que moi j'étais sur de la polyphonie vocale en parallèle. Et tout ça pour arriver au bout du bout à quelque chose de beaucoup plus, on va dire, un solo. Par exemple, solo de cornemuse pour Jean, où il travaille énormément les caractéristiques acoustiques en premier de son instrument, où il travaille énormément sur les sons harmoniques. Et tous les deux, finalement, moi j'ai profité de ça, tous les deux, on a travaillé sur les bourdons de la vielle quand on était en duo et comment poser sa voix avec quel timbre sur les bourdons de la vielle ou de la cornemuse. Et ça a été un parcours assez enthousiasmant. Voilà.
On va remonter justement au début de ce parcours dans les années 70, même peut-être un tout petit peu avant, et écouter Jean Blanchard sur la création du Folk Club de la Chanterelle à Lyon, une archivina extraite de l'excellente série documentaire de Péroline Barbet qui s'appelle « Musique populaire, une épopée française » diffusée sur France Culture.
En 69, quand je me suis frotté avec les fondateurs du Bourdon, en plaisantant, je leur ai dit, vous avez fait le Bourdon à Paris, je vais faire la Chanterelle à Lyon, sur la blague des cordes de la vielle à roue, la Chanterelle de Bourdon, voilà. Alors entre-temps, c'est très compliqué, c'est pour ça que je dis que le temps est compressé pendant cette époque. Avec des amis de l'INSA, on a commencé à pratiquer de manière informelle des répertoires traditionnels venus d'un peu partout, de Louisiane, d'Irlande et autres, Berry, Auvergne, on mélange tout et on est très content. Et avec cette petite équipe, on fonde cette chanterelle qui s'installe dans ce lieu, dans la cour des Voraces, à Lyon, donc qui donne sur la place Colbert. Et c'est là que commence l'aventure lyonnaise. Et dans ce contexte-là, éclot toute une série d'initiatives. Il y a des groupes éphémères qui se font, des groupes un petit peu plus stabilisés. L'idée de collecte se répand, donc il y a des gens qui partent dans les campagnes présumées profondes. C'est très rigolo, très romantique, on n'y connaît rien pour la plupart d'entre nous, mais on va là où on pense qu'il y aura la communauté rurale la plus reculée qui aura été à l'abri de la civilisation dévastatrice. Et c'était pas si faux que ça, parce qu'en fait on a bien trouvé des trucs. Il y a quelques dizaines de personnes qui se lancent de manière plus ou moins régulière dans ces opérations-là, qui réinjectent dans leur pratique musicale de manière quasi immédiate le résultat de leurs recherches, sans trop se poser de questions. Donc là, il y a une espèce de dynamique incroyable dans ce local. Il y a vraiment énormément de monde qui y passe, alors que les conditions d'accueil sont loin d'être...
Le soleil s'était levé. et ses yeux se sont fermés. La voiture a dérapé, tout droit dans un peuplier. La voiture a dérapé, tout droit dans un peuplier. Tout droit dans un peuplier, on contre pas de la route. Tout droit dans un peuplier, le matin on le amourait. Vous qui cherchez du travail, vous pouvez vous présenter. Vous qui cherchez du travail, vous pouvez vous présenter. Vous pouvez vous présenter, à midi au grand portail. Vous pouvez vous présenter, garçons et filles sont embauchés.
La fille d'usine du groupe La Bamboche, écrite et composée par Jean Blanchard avec votre voix, Evelyne Girardon. C'est extrait d'un album de la deuxième formation de La Bamboche. On l'entend avec tous les instruments électriques. Vous avez rejoint à ce moment-là La Bamboche. C'était comment les années La Bamboche, Evelyne Girardon ?
Ah bah c'était assez extraordinaire parce que j'ai appris mon métier. C'est-à-dire que j'ai appris évidemment musicalement beaucoup. J'ai été très bien accueillie dans ce groupe de garçons. Quand je dis que j'ai appris mon métier, j'ai tout appris. J'ai appris à sonoriser ma vieille Larroux avec des Marcus Berry à l'époque. Je crois que je suis une des premières, avec l'aide évidemment des musiciens qui étaient là, qui m'ont aidé à choisir. J'ai appris à défaire la sono, à ranger les câbles et à parler au conducteur du camion pendant toute la nuit pour qu'il ne s'endorme pas. Donc j'ai appris à faire tout ça.
Oui. C'était les années rock'n'roll, même si vous étiez dans le folk, mais c'était quand même un peu des années rock'n'roll. Il y avait un côté un peu... vous parcouriez un peu la France et en voiture pour faire des concerts partout.
C'était la vie devant nous. C'est-à-dire avec cette espèce de sensation d'inventer quelque chose, de se confronter à d'autres, beaucoup. À l'époque, il y avait une chose qui était extraordinaire et que je regrette aujourd'hui qu'il n'y ait plus, c'est que dans les festivals, il y avait tous les styles musicaux qui étaient proposés. Et donc, voilà, nous on était là, mais il y avait plein d'autres gens qui jouaient des styles différents. Et je me souviens d'un printemps de Bourges avec Magma, où nous avions eu l'idée ensuite d'utiliser une forme vocale en imitation un peu à Magma, voilà. On était très imprégnés de tout ce qui se passait à l'époque et pas uniquement des musiques traditionnelles que nous aimions quand même et que nous avions au cœur en priorité, bien sûr.
Et La Bamboche pour Jean Blanchard, c'était aussi un fabuleux terrain pour expérimenter des compositions, d'écriture de paroles, d'arrangements. Et on va justement revenir avec la première formation de La Bamboche, avec un titre arrangé par Jean Blanchard. On écoute cette formation avec Jackie Bardot, Bernard Blanc, Jacques Maillot et Jean Blanchard, évidemment.
Trois filles sous un pommier doux.
Il était trois filles sous un pommier doux.
L'a dit la première, je crois qu'il fait jour. Joli mois de mai, qu'en reviendras-tu? Joli mois de mai, qu'en reviendras-tu?
Joli mois de mai, qu'en reviendras-tu? Joli mois de mai, qu'en reviendras-tu?
L'a dit la première, je crois qu'il fait jour.
L'a dit la première, je crois qu'il fait jour.
L'a dit la deuxième, j'entends le tambour. Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu?
Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu?
L'a dit la deuxième, j'entends le tambour.
L'a dit la deuxième, j'entends le tambour.
L'a dit la troisième, ce sont nos amours. Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu?
Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu?
T'as dit la troisième, ce sont nos amours.
T'as dit la troisième, ce sont nos amours.
Ils vont à la ville combattre pour nous. Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu?
Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu?
qui vont à la ville combattre pour nous,
qui vont à la ville combattre pour nous,
contre les gendarmes qui sont pires que les loups. Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu?
Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu?
Gendarmes qui sont pires que des loups,
contre les gendarmes qui sont pires que des loups,
s'ils gagnent bataille, auront nos amours. Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu?
Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu?
S'ils gagnent bataille, auront nos amours.
S'ils gagnent bataille, auront nos amours.
Perdent ou qu'ils gagnent, les aimeront toujours. Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu?
Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu?
Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, les aimeront toujours.
Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, les aimeront toujours.
Contre les gendarmes gagneront un jour. Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu?
Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu? Joli mois de mai, quand reviendras-tu?
Joli mois de mai par La Bamboche, extrait de leur album sorti en 1976. On est en plein retour des musiques populaires. Jean Blanchard est une des figures de ce mouvement qui a permis de ressortir tout un répertoire voué à disparaître.
France Musique.
Remontons au début, donc juste après la création du Monde, j'ai commencé à jouer de la musique avec l'harmonica diatonique offerte par mon grand-père paternel. Voilà, c'est bien fait, il ne fallait pas poser la question.
Bonjour Max Wenzen.
Bonjour.
Vous êtes, entre autres, joueur de vielle à roue, professeur, docteur en histoire. Vous travaillez, faites des recherches sur les musiques populaires. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous, Jean Blanchard ?
Un grand bonhomme, un ami, un passeur, un modèle, un savant. Je crois que c'est déjà pas mal.
Vous le connaissiez bien depuis longtemps et puis vous avez partagé avec lui beaucoup de questions, de recherches, de découvertes. Par quoi il était intéressé? Qu'est-ce qu'il recherchait, Jean Blanchard?
Alors, qu'est-ce qu'il recherchait? C'est une vaste question. C'était sa passion pour la cornemuse, qui était son instrument de prédilection, et tout ce qu'elle, ce qu'on croyait sur elle, et qui était largement faux. Donc, sa formule, on croit jouer de la cornemuse, mais c'est elle qui se joue de nous, qu'il a immortalisé sur une de ses pochettes de disques, le résume assez bien. Il avait l'art de retourner les formules et de nous remettre les idées en place sur un tas de domaines.
Et dans un spectre un peu plus large, qu'est-ce qu'il a représenté dans le cadre des musiques traditionnelles en France ?
Un meneur, quelqu'un qu'on imitait, quelqu'un qu'on suivait. Un de mes camarades a composé une bourrée qu'il a appelée Merci Blanchard. Parce que Jean lui avait ouvert une sorte de... lui avait fait un déclic par rapport à la composition. Jean a composé énormément de mélodies qui sont jouées et qui seront jouées encore longtemps et qui sont très, très bien vues pour la danse et qui avaient le talent de nous amener vers des itinéraires mélodiques surprenants parfois.
Il a, comme vous le dites, mené et fondé de nombreux ensembles. Vous avez fait partie de l'un d'entre eux qui s'appelle la Grande Bande de Cornemuse. C'était quoi cette Grande Bande de Cornemuse ?
Une idée un petit peu folle de faire un orchestre de cornemuse, ça s'appelle un bagade en Bretagne, ce n'est pas chose nouvelle. Avec les cornemuses du centre de la France, c'était plus ou moins inédit. Le folklore avait déjà fait des ensembles de cornemuses, mais là, il y avait un parti pris scénique un parti pris de composition musicale, d'arrangement. Et c'est lui qui était dans une veine créatrice particulièrement intense à ce moment-là et qui a composé un répertoire tout à fait plaisant à jouer. Et qu'est-ce qu'on a rigolé.
Et enfin, est-ce que vous auriez un souvenir marquant de Jean Blanchard qui pourrait un petit peu décrire le personnage qu'il était?
Ben c'est sa manière de parler, sa manière de... Jean Blanchard ne disait jamais oui ou non, il disait la réponse est oui, la réponse est non. Il avait une manière de mettre en scène son discours qui était particulièrement plaisante, que j'ai trouvé plaisante. Et lorsqu'il m'a appelé un jour au téléphone pour me demander de faire partie de l'aventure de la grande bande, c'est un moment très très fort pour moi, c'était une forme de reconnaissance. On avait marché sur les chemins des maîtres sonneurs avec une bande de cornemuseux et de mules. Et on avait joué au long des chemins d'Errichon pendant une grosse semaine avant de terminer crotté et hirsute sur la scène du festival de Saint-Chartier. C'était un très grand moment et il était dans cette affaire-là. C'est lui qui nous avait dit avec d'autres, allez, on va marcher sur les chemins.
Merci beaucoup, Maxou Hansen, pour votre témoignage et votre présence pour cet hommage à Jean Blanchard.
Péché par excès de modestie, mais je n'ai absolument rien inventé, puisque bien sûr la formule existe en Écosse, en Bretagne, en Galice depuis très longtemps. Je n'ai fait justement, je pense peut-être par pure jalousie, qu'adapter dans une formule qui a quand même sa petite originalité, l'idée d'une fanfare de cornemuse. Bon, la grosse différence, c'est que dans la forme de la grande bande des cornemuses, nous avons des pupitres de tonalités différentes en cornemuse. Dans le bagpipe, le pipe band écossais, un seul pupitre de cornemuse, unisson total. Pour les bagadous bretons, deux pupitres cornemuse et bombarde, avec de magnifiques créations polyphoniques, mais toujours pour seulement deux pupitres. Et un seul pupitre de cornemuse, donc. Là, l'apport que j'espère avoir amené, c'est de penser en termes de pupitres de cornemuse avec des tonalités différentes.
La voix de Jean Blanchard dans une archive de l'INA extrait d'une émission diffusée en 92 sur France Musique et en fond, c'est la grande bande de cornemuses que l'on écoute.
France Musique, Planète Okora, Aliette Delalleu.
Oh.
Une mélodie collectée dans le Berry, région d'origine de Jean Blanchard, qu'il joue ici à la Cornemuse dans un disque sorti en 1988 sur le label Okora. Evelyne Girardon, on évoquait la grande bande de Cornemuse. Là, on est dans les années 80. Les années 80, c'est aussi la création de la compagnie du Beau Temps. C'était quoi cette compagnie ?
C'était un ensemble de musiciens, chanteurs, instrumentistes qui ont eu envie de représenter les musiques traditionnelles dans une forme un peu particulière. C'est pourquoi à l'époque nous avons invité des comédiens, des metteurs en scène à nous aider à nous présenter sur scène, c'est-à-dire à avoir un deuxième type de narration. Et ça a été vraiment passionnant parce qu'on s'est rendu compte que l'on pouvait investir, nous, différemment, à la fois les chants et les instrumentaux, dans une sensation particulière pour donner au public une envie de connaître ce répertoire. Pas simplement être là en concert pour jouer, pas simplement être là pour faire danser, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà un beau projet, mais aussi de pouvoir dire autre chose, de quelque chose de plus intime de ce que nous étions. Voilà. Particulièrement pour le chant, par le chant, mais aussi dans le jeu des instruments. Donc cette compagnie du Beau Temps, elle a œuvré avec un certain nombre de spectacles, en invitant donc des metteurs en scène à avoir une lecture particulière, eux aussi, de ce qu'on était en train de faire. Et ces metteurs en scène ne venaient pas du milieu traditionnel. Et donc ils ne connaissaient pas forcément les répertoires, d'où ils venaient, mais ils nous ont apporté énormément par leur regard et par leur suggestion d'une narration parallèle à tout ce que nous faisions.
Jean Blanchard faisait partie de certains des projets de la compagnie du
oui.
Beau Temps.
Oui.
Notamment un qui s'appelle Le Grand Festin.
Oui.
C'était quoi Le Grand Festin ?
Alors, Le Grand Festin, c'était la réunion de tout le monde, puisqu'en fait, à l'époque, nous avions sorti chacun un CD chez Ovidis, hein, à l'époque. Donc moi, j'avais déjà monté Roulez Fillettes. Il y avait un disque de Bruno Letron, le premier, un grand accordéoniste, un grand mélodiste aussi, du coup, qui s'entendait très bien avec Jean, qui était aussi un grand mélodiste. Il y avait Robert Amiot, chanteur du Québec, et il y a eu la grande bande. Et on a eu envie de réunir tout ce monde-là pour faire un CD particulier, et Ovidis a accepté. Donc nous l'avons fait, et c'est un disque qui est devenu un petit peu mythique aujourd'hui, parce que les gens n'arrivent pas trop à le trouver.
C'est une rareté.
Donc c'est une rareté.
Et vous avez voilà. voulu écouter une chanson particulièrement,
ah oui.
qui
oui.
s'appelle « Le sel et le sucre ». Pourquoi cette chanson ?
Parce que il me semble, alors soit je rêve, soit je ne rêve pas, mais je crois que j'ai raison. Gabriel Yacoub, qui a écrit la chanson, Jean Blanchard, et moi-même, et plein de gens, dont des chanteuses de Roulez Fillettes, des cornemuseux qui étaient dans la grande bande, nous nous retrouvions chaque année chez les Thiolins de Lignières.
Dans le Berry.
Dans le Berry, à l'Assemblée des Thiolins de Lignières. Et Gabriel, un jour, a sorti cette chanson et l'a confiée à Jean. Et j'ai trouvé que ça décrivait vraiment très très bien ces soirées chez les Thiolins, qui est un groupe d'éducation populaire. Hein. Et quand Jean l'a chanté, vraiment, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment la personne qu'il fallait pour la chanter. D'ailleurs, derrière, on entend ses cornemuses, une partie de la grande bande, et on entend aussi Roulez Fillettes.
Le sel est sur la table, là au milieu, sucré sur les lèvres des belles dames. Le sel est sur la table, le sel est sur la table. Le sel est sur la table, là au milieu, sucré sur les lèvres des belles dames. Le sel est sur la table, le sel est sur la table. Il y a déjà longtemps de ça. À manger, à boire, à chanter, à croire que la nuit pouvait s'arrêter là. Le sel est sur la table, là au milieu, secret sur les lèvres des belles dames. Le sel est sur la table,
sel est sur la table.
Le sel est sur la table, là au milieu, le sucre est sur les lèvres des belles dames. Le sel est sur la table, le sel est sur la table.
On s'est retrouvés tous les ans, on n'avait pas changé vraiment, des plis au coin des yeux et des enfants joyeux qui ressemblent un peu à leurs parents. Celle sur la table, là au milieu, le sucre est sur l'épaule des jolies dames. Le sel est sur la table, le sel est sur la table.
Le sel est sur la table, là au milieu, le sucre est sur l'épaule des jolies dames. Le sel est sur la table, le sel est sur la table.
Tant à raconter, tant de bouteilles à vider, et si peu de temps, encore un moment, le matin va bientôt se lever.
Le sel est sur la table, là au milieu, le sucre sur les lèvres des belles dames. Le sel est sur la table, le sel est sur la table. Le sel est sur la table, là au milieu, le sucre est sur les lèvres des belles dames. Le sel est sur la table, le sel est sur la table.
Le sel et le sucre, composition de Gabriel Yacoub, chanteur du groupe Malicorne, interprété ici par Jean Blanchard, extrait de l'album Le Grand Festin avec La Compagnie du Beau Temps, sorti chez Ovidis.
La danse de la misère.
France Musique.
Ensuite, j'ai joué de la guitare 12 cordes, du banjo, et puis est arrivée la période folk où là j'ai joué de tout ce qui passait à ma portée, comme c'était la règle à l'époque, ce qui nous faisait des coffres de voitures particulièrement pleins.
Bonjour Éric Mombel, vous êtes joueur de cornemuse, chercheur, compositeur, vous avez joué et enregistré quelques décennies, on peut dire, avec Jean Blanchard. Est-ce que vous pourriez nous dire quel musicien était Jean Blanchard ?
En fait, Jean, on a commencé notre collaboration en explorant l'univers des cornemuses qu'avait mis au point Bernard Blanc, qui étaient des copies d'instruments anciens. Et donc, on a décidé de mettre en sonorité, de mettre en jeu des expériences musicales de duo, c'est-à-dire de jeu à deux cornemuses. Et en fait, on explorait tous les deux cet univers harmonique qui était assez nouveau, et à la fois dans un respect, si vous voulez, des formes anciennes, puisque lui venait du Berry, hein, donc il connaissait très bien cette musique-là. Mais comme le Berry est un territoire d'imaginaire, et Jean venait des groupes folkloriques, il venait des musiques de Georges Sand, enfin l'univers de Georges Sand, donc il fallait inventer. On était vraiment dans un univers de nouveautés, et donc avec Jean, on faisait des explorations musicales qui allaient jusqu'à la composition. Moi, ce que je retiens de Jean Blanchard en tant que musicien, c'est aussi son incroyable talent de compositeur. Enfin, qu'il a vraiment beaucoup écrit pour cet instrument, pour la cornemuse. Et c'était tout à fait incroyable de voir les mélodies anciennes qu'il interprétait, en même temps les modèles nouveaux qu'il faisait à partir de ce modèle ancien. Et il a une production incroyable. Je pense que pour moi, c'est parmi les plus belles mélodies de cornemuse qui ont été faites dans cet univers-là, l'univers des nouvelles musiques traditionnelles.
Éric Mombel, en tant que joueur de cornemuse, qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce qu'a apporté Jean Blanchard pour la cornemuse et pour le répertoire autour de la cornemuse?
Ben, je crois que Jean, il a d'une part une collaboration avec beaucoup de monde. Hein. Il avait la fraternité facile, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a toujours su s'entourer de gens tout à fait exceptionnels. Il a créé le quintet de cornemuse, par exemple, quelques années plus tard. Il avait cette volonté de faire du nouveau, de faire du neuf. C'est-à-dire toujours avec des modèles anciens, si vous voulez, mais avec quand même une inscription dans un répertoire et un univers moderne. Et encore une fois, je pense que le théâtre musical, pour lui, ça a été quelque chose d'important. Il venait du théâtre, hein, les premiers groupes qu'il a fondés, la Bamboche, etc., c'était des expériences de scène très théâtralisées. Et je crois qu'il y a un souvenir du groupe folklorique, finalement, si vous voulez, dans son parcours musical depuis toujours, avec cette inscription de la cornemuse dans un univers visible, c'est-à-dire non seulement la scène classique de la pop musique ou du folk, mais aussi vraiment de quelque chose de beaucoup plus large. Par exemple, ce qui l'a amené à créer la grande bande. La grande bande de cornemuse, pour moi, c'est du spectacle musical, du théâtre musical à très grande échelle. C'était le prolongement de ce qu'il avait fait pour le 14 juillet 89, hein, quand il avait fait la célébration sur les Champs-Élysées avec Jean-Paul Goude, en réunissant plus de, je sais pas, peut-être une centaine de joueurs de cornemuse. C'était cet esprit de vraiment de visibilité de l'instrument en dehors du cadre folklorique, si vous voulez, en dehors du cadre folk, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus contemporain, de la musique d'espace, de la musique de situation. Et ça, je pense que dans l'attitude de Jean, toujours, il y a eu cette volonté du théâtre, la mise en théâtre de la musique, finalement.
Vous avez aussi, avec Jean Blanchard, cofondé le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes. À la création du centre, il y avait une volonté d'ouvrir les musiques régionales un peu à d'autres esthétiques. Comment ça s'est concrétisé, cette volonté ?
C'est-à-dire qu'on a bossé ensemble avec Jean pendant 10 ans, hein, sur la musique, lui avec la Bamboche ou les autres créations qu'il avait faites. Et moi, de mon côté, j'étais aussi dans le groupe Le Grand Rouge ou le Jai. Donc on était tous les deux dans des démarches à la fois de création musicale, mais aussi de collectage et de recherche des sources. Et quand en 89, oui c'est ça, on m'a demandé de faire une étude sur la création d'un centre de musique traditionnelle, en copiant, si vous voulez, sur le modèle de ce qui avait été fait en Auvergne avec l'AMTA ou en Limousin avec le CRMT Limousin, je suis allé chercher Jean. C'est-à-dire que pour moi, l'idée c'était d'avoir ce type génial à mes côtés pour monter la structure. Et donc, bien sûr, on est partis tous les deux dans cette aventure. Donc, ça a dépassé, si vous voulez, le jeu à deux cornemuses. Et pendant 10 ans, on a travaillé alors sur un centre dont la volonté était très clairement d'aborder l'univers musical dans son ensemble, c'est-à-dire non seulement jouer, évidemment faire de la diffusion, mais associer recherche, c'est-à-dire faire de la recherche de terrain, diffuser cette recherche par le biais de disques ou de publications, et puis également évidemment une volonté d'enseignement, c'est-à-dire enseigner la musique traditionnelle, et aussi la diffuser par une revue, un journal qu'on a créé qui était un trimestriel. Donc vous voyez, c'était très très ambitieux, mais avec Jean, on pouvait faire des choses formidables, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas le sens de l'heure, c'est-à-dire qu'il travaillait comme un fou. Jean, c'était un oiseau de nuit aussi, hein, il vivait beaucoup la nuit, et donc il y avait un rythme de travail assez acharné, et on a eu la chance d'être accueillis assez rapidement à la ville de Saint-Fons, et nous ont proposé des locaux et une structure, et donc le centre, pendant une dizaine d'années, est resté à Saint-Fons, et on a travaillé en partenariat avec beaucoup de monde, sans oublier notre administrateur, Robert Caron, qui avait un rôle très très important. On était vraiment une sorte de trium, si vous voulez, à travailler dans cette structure, avec des gens, évidemment, tout autour de nous, qui travaillaient dans chacun dans leur domaine. Ensuite, au bout de 10 ans, c'est-à-dire en 2000, moi, je suis parti à Marseille, et donc j'ai arrêté ma collaboration avec le CMTRA, mais Jean a continué, lui, en tant que directeur, de faire vivre la structure.
Merci beaucoup, Éric Mombel, pour votre témoignage.
Merci, Aliette.
bien sûr qu'il est toujours intéressant de collecter la mémoire de l'autre. Bien sûr que les transmissions orales apportent toujours plus que, à la fois au niveau humain et au niveau de la stricte information, que la lecture d'archives. Bien sûr que une tradition n'est jamais réellement morte, sauf quand le dernier détenteur disparaît, et qu'on ne peut pas parler de dégradation sans faire appel à la notion de pureté qui, comme chacun sait, est plutôt suspecte. Si le projet est de tout conserver, ça c'est une autre question. Est-ce que ça n'est pas un peu dément de vouloir archiver de l'humain en masse, des témoignages empilés? Où est le vrai projet dans la collecte? Je pense que, enfin, moi, ma réponse est que le plus important dans l'acte de collectage, c'est l'enrichissement personnel de l'individu qui fait la démarche de collectage, qui va à l'encontre de témoins, qui établit une relation humaine, souvent très très riche, et qui construit sa propre réflexion à partir de témoignages oraux directs de personnes qui ont souvent une ou deux générations de différence.
Dans cette archive diffusée en 1992, Jean Blanchard parle de l'importance des rencontres et du côté intergénérationnel dans la pratique du collectage. C'est quelque chose qu'il a ensuite appliqué dans sa manière de pratiquer la musique, Évelyne Girardon.
Oui, s'il y avait beaucoup de gens qui pouvaient l'intéresser dans cette transmission, ce sont les jeunes générations. Il a été absolument passionné par ses étudiants du CFEDEM, par exemple. Il en parlait beaucoup. Il m'expliquait souvent que, évidemment, il transmettait, il leur apportait le maximum de choses qui lui semblaient cohérentes, mais qu'eux lui apportaient beaucoup aussi. Donc ça l'intéressait énormément. Et il était très très sensible à ce que ces jeunes générations recevaient et faisaient de la musique, et c'était le premier à encourager tous les développements possibles qu'il n'aurait jamais pu imaginer.
Et c'est une jeune génération qui joue beaucoup, en fait, la musique de Jean Blanchard, puisque on a entendu certaines de ses œuvres. C'était aussi un grand compositeur, Jean Blanchard.
Ah ben, il a tellement aimé les mélodies traditionnelles que ça a complètement coloré ses compositions, qui sont absolument jouées partout, quelquefois, mais ça arrive aussi à d'autres musiciens, mais quelquefois les jeunes générations les jouent en pensant que c'est traditionnel, alors que c'est composé par Jean, mais ça arrive à d'autres instrumentistes, et c'est parce que les morceaux fonctionnent, parce qu'ils sont beaux mélodiquement, rythmiquement, et qui racontent quelque chose aussi pour la danse, parce qu'il y a une majorité quand même de thèmes qui sont pour la danse.
Ça fonctionne peut-être aussi parce qu'on peut le rappeler, Jean Blanchard, on l'a beaucoup entendu avec la cornemuse, mais il était multi-instrumentiste. Il pouvait jouer aussi bien du banjo que de l'accordéon, que de la cornemuse, et oui, encore d'autres instruments, je crois.
Oui, alors il a joué de l'accordéon. D'ailleurs, il a fait un CD qui a été majeur, hein, pour l'accordéon diatonique. Mais une de ses dernières marottes, c'était le banjo. Et Laurence Dupré, qui était une personne qui jouait avec lui, une musicienne qui jouait avec lui dans Auvergnatus, racontait qu'à chaque répétition, il y avait un nouveau banjo qui allait être définitif, mais qui ne l'était pas, puisqu'il changeait régulièrement. Non, il était très passionné par plein d'autres. Il a joué du violon, il m'a accompagné à l'Épinette des Vosges, je me rappelle très bien, dans la bamboche, et il était capable de prendre tous les instruments possibles et de faire quelque chose avec, mais il préférait quand même, au-delà de la cornemuse qui était son instrument fétiche, les instruments aussi qui accompagnaient la voix. Donc il a beaucoup joué du violon pour accompagner la voix aussi. Et puis l'accordéon, ensuite, quand nous avons joué en duo, c'était aussi des possibilités. Et alors je n'ai jamais vraiment chanté avec son banjo, quoiqu'une fois, dans un concert de chansons coquines qui s'appelait La feuille à l'envers. Voilà.
On va l'entendre avec son instrument de cœur dans un de ses derniers albums qui s'appelle Cornemuse toute nue. Voilà, on est sur le côté aussi coquin, mais finalement non, avec toutes ses compositions. Et vous avez choisi un titre, Évelyne Girardon, qui s'appelle Les Grandes Misères, La Route de Plymouth.
Mais un petit mot peut-être sur ce titre avant de l'écouter.
Je l'aime. C'est un de mes préférés.
Merci Méveline Girardon pour ce choix musical et puis pour votre présence dans cette émission ô combien importante qui rend hommage à Jean Blanchard. Merci aussi à Eric Montbel, Maxou, Léo Pétoin pour la mise en relation. Merci à Max James qui réalise l'émission, Maud Nourry pour la préparation. Merci à Viviane Lefebvre pour les archives INA. À la technique aujourd'hui, c'était Bruno Mourlan et Clara Salaz. On se quitte avec une dernière chanson qui s'appelle « La Palombe » dans laquelle on entend les voix de Jean Blanchard et Évelyne Girardon. Bonne journée sur France Musique et à la semaine prochaine.
J'ai vu les yeux de la palombe, j'ai vu les yeux de la palombe, au bord de la mer tout au bord, j'ai vu la palombe qui dort, j'ai vu le bec de la palombe, j'ai vu le bec de palombe au bord de la mer tout au bord, j'ai vu la palombe qui dort, j'ai vu la tête de la palombe, j'ai vu la tête de la palombe au bord de la mer tout au bord. J'ai vu la palombe qui dort, j'ai vu le cou de la palombe, j'ai vu le cou de la palombe, au bord de la mer tout au bord, j'ai vu la palombe qui dort, j'ai vu les ailes. J'ai vu les plumes de la palombe, j'ai vu les plumes de la palombe.
J'ai vu là-bas l'emballe qui dort. J'ai vu le cœur de la palombe. J'ai vu le cœur de la palombe. Au bord de la mer, tout au bord, j'ai vu la palombe qui dort.
France Musique.